Bonsoir, bienvenue sur RFJ, il est 19h et bientôt 3 minutes. Vous le savez probablement, la fumée blanche que l'on a aperçue à 18h08, si mes souvenirs sont bons, ce qui signifie que le nouveau pape est élu le successeur du pape François, et donc élu. Pas connu de tout le monde, pour l'instant il est connu des 133 cardinaux qui étaient en conclave depuis hier. Cyprien, on a le bonheur, comme il y a 12 ans, donc de partager une émission spéciale pour évoquer l'élection de ce nouveau pape.
C'est là aussi, Jean-Michel, que l'on voit le poids de l'histoire et du fait que ça commence à passer les années. On était là à l'antenne avec vous pour partager l'annonce de l'arrivée du pape François. Eh bien, on va se réjouir aussi ce soir de partager avec vous l'arrivée de celui qui lui succédera. Avec nous ce soir, déjà deux invités dans ce studio. Jean-Marie Nussbaum, le chanoine du canton du Jura. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Cyprien, bonsoir à chacune et à chacun.
Et bonsoir aussi à Bernard Miseret, recteur du Fort-Bourg, ici à Delémont. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les deux dans cette émission spéciale. On va évidemment tenir l'antenne jusqu'à l'arrivée d'abord de l'Abemus Papam, qui devrait nous annoncer le nom de ce nouveau pape, et ensuite à l'arrivée du pape au balcon pour la première des bénédictions Urbi et Orbi du nouvel élu. Alors peut-être commencer avec l'une de vos réactions à vous deux, Bernard Miseret. Il est 19h04, nous sommes au lendemain du début du conclave et il y a déjà un pape. A priori, avec 4 tours de scrutin, c'est allé très vite.
C'est très étonnant même, parce qu'on parlait, du moins les vaticanistes, de l'ouverture un peu inédite du conclave, qui rassemblait des cardinaux qui ne se connaissaient même pas entre eux, et qui avaient à réfléchir ensemble à la mission de l'Église, à la situation du monde. Et il semblerait que les congrégations, les 8 qui ont eu lieu avant le conclave, ont été parfois difficiles. Et c'est pour ça que c'est très très surprenant qu'après 4 votes, on a pu choisir, on a élu notre nouveau pape.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Jean-Marie Nussbaum ? 4 votes, on parle de surprise, surprenant, dit Bernard Miseret.
Oui, ça peut vouloir dire que les 133 cardinaux, du moins en tout cas les 2/3, connaissaient bien, plus ou moins bien, celui qu'ils ont élu. Et il est vrai qu'il y en a qui sont plus connus de tous les cardinaux de par leur fonction que d'autres. Donc on peut supposer que très vite un nom, ce nom-là est apparu et puis il a été confirmé dans les scrutins suivants.
Il y a des noms qui étaient évoqués déjà avant aujourd'hui, je veux dire même avant le premier conclave, il y avait des noms qui paraissaient une évidence. Est-ce qu'on peut penser que c'est l'un de ces noms ou est-ce qu'on peut être totalement surpris comme on l'a été il y a 12 ans ?
Alors, on peut supposer que parmi les noms les plus connus, c'est le cardinal secrétaire d'État du pape François, Pietro Parolin, qui pourrait être, mais ça peut être tout à coup un autre, qui, de par son aura, je suis en train de penser par exemple au patriarche latin de Jérusalem, qui, peut-être pas de par la situation géographique où il est, et on parle quand même du patriarche latin, donc peut-être, mais ça peut être encore quelqu'un d'autre qui a fait forte impression lors des congrégations générales.
Lorsque vous êtes arrivés, les deux, Bernard Miseret et Jean-Marie Nussbaum, lorsque vous êtes arrivés, c'était vraiment sur votre visage le sourire de cette élection du nouveau pape. Ça veut dire que pour vous, c'était quelque chose d'important, de très attendu.
Oui, c'est très important parce qu'on ne peut pas vivre sans le pape. C'est quand même lui qui a la mission de Pierre, c'est-à-dire de l'unité de l'Église. Et on a senti combien, depuis quelques semaines, la voix du pape nous a manqué. Quel est l'homme au monde qui a un tel message, comme a su le faire François ? Cette voix nous a manqué. Et c'est pour ça que ce soir, on est plein de réjouissance, d'impatience et déjà de joie, quel que soit le nom du pape, de retrouver et d'accueillir un pasteur que nous recevons de Dieu.
Ce qui est d'ailleurs très frappant quand on voit sur la place Saint-Pierre, dès qu'il y a eu l'annonce de l'élection et de l'acceptation, c'est ça qui fait que le pape est élu, c'est l'acceptation, et que la fumée blanche est apparue, la joie sur, oui. Sur la place Saint-Pierre de cette foule de tous âges devenue de partout, sans savoir qui c'est. Donc vraiment, dans le fond, c'est le pape. Et plus que le successeur de François, c'est surtout le successeur de l'apôtre Pierre que l'on a élu. Parce que être successeur de François, c'est pas simple. Et il ne faut pas que le successeur soit la copie du prédécesseur. Il doit être ce qu'il est. Et il ne faut pas attendre du nouveau pape qu'il soit François bis. Parce que tout le monde sera déçu et c'est une mission impossible. Mais il est bien le successeur de l'apôtre Pierre. C'est lui la référence.
On a vu, vous avez dit, les drapeaux qui viennent de partout. C'est vrai que donc on a sous nos yeux les images de la place Saint-Pierre. On va essayer de vous les décrire petit à petit, mais une place Saint-Pierre qui est gentiment noire de monde. Hein. Il y a bientôt plus de place sur cette place. Il y a des drapeaux de partout. On voit l'Équateur, on voit l'Amérique, on voit le Liban, on voit un peu tous les continents.
Est-ce que même la Corse.
Même la Corse. C'est dire, puisqu'il y a des cardinaux.
Le pape pourrait être corse. Hein.
Et oui.
Et c'est peut-être quand même la première fois pour l'élection d'un pape que l'on voit le monde vraiment sur la place Saint-Pierre. Ce que je veux dire par là, c'est que même pour l'élection de François, il y en avait déjà moins. Et le fait que le pape François était argentin et a eu cette ouverture finalement vers les autres continents que l'Europe, est-ce que ça se reflète finalement sur ce que l'on voit en ce moment sur la place Saint-Pierre ?
Peut-être qu'on est aussi dans l'année sainte, l'année du jubilé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pèlerins à Rome. Et donc on peut aussi supposer que des personnes avaient prévu d'être en pèlerinage cette semaine-là. Et puis d'autres personnes qui se sont dit, ben voilà, le pape François s'en est allé, il y aura un successeur. On a envie d'être sur place pour accueillir le successeur.
Oui, Bernard ?
Oui, moi je dirais aussi que... On n'a jamais vu les médias, depuis que la papauté existe, être intéressés pareillement aux événements de l'Église. La mort du pape François a mobilisé des journées entières des postes de télévision, des réseaux, des émissions partout, et ça a duré plusieurs jours. L'intérêt pour... Le successeur de Pierre, pour reprendre l'expression de Jean-Marie qui est tout à fait juste et pertinente, ben, mobilise toutes les énergies. Ça montre combien cette personnalité du pape a pris une importance aujourd'hui, pas seulement spirituelle, mais dans la vie politique, dans la vie du monde.
On pourra... Plus tard dans cette émission, probablement diffuser un micro-trottoir que Jean-Michel a réalisé hier ici dans le Jura. Peut-être vous l'avez entendu si vous êtes derrière le poste ce matin durant la matinale. Il a été diffusé. Il y avait notamment un propos qui m'a marqué et que j'aimerais vous entendre réagir là-dessus. Jean-Michel, vous avez hier soir rencontré quelqu'un qui a dit ici à Delémont « J'attends du pape qu'il rassure le monde ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Bernard Miseret par exemple ?
Je pense que la personne qui a dit ça a besoin de ce repère, de cette personne, pour garder confiance peut-être. Peut-être parce qu'il pressent que cette parole unique est peut-être une des seules paroles d'espérance de la part des chefs d'État, puisqu'il en est un. Et en plus, comme chef de l'Église catholique.
C'est vrai qu'il est chef d'État. Mmh. Mais on n'attend pas d'un chef d'État qu'il rassure le monde.
Ben oui, mais c'est pour ça que je dis... C'est...
Peut-être même au-delà de sa parole, la simple présence du pape est un peu cette boussole, je dirais, pour le monde. Et le seul fait qu'il existe est un peu un point de repère, au-delà même de ce qu'il peut dire. Voilà, il y a quelqu'un qui est un peu comme aussi le pilier, quelqu'un sur qui peut-être on peut regarder et qui nous indique toujours finalement le chemin auquel on aspire, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la réconciliation, la plénitude de vie. Et je pense que c'est peut-être aussi un petit peu de ce côté-là qu'on peut chercher une réponse.
Vous êtes sur RFJ, il est 19h12, il y a 1h04 maintenant, la fumée blanche est sortie de la chapelle, de la cheminée de la chapelle Sixtine. Un nouveau pape est élu, personne ne le connaît encore, mais l'arrivée du protodiacre pour annoncer ce fameux Habemus Papam approche, hein, c'est peut-être dans les quelques minutes qui arrivent. C'est l'occasion peut-être maintenant de nous expliquer, Jean-Marie Nussbaum, ce qui s'est passé, on va dire, depuis 18h. C'est-à-dire qu'il y a eu un quatrième vote cet après-midi qui a élu un pape. Et ensuite ?
Voilà. Quand le cardinal a été élu, le président du conclave, qui est normalement le cardinal Parolin, mais si jamais c'est lui...
Alors, je vais vous couper, Jean-Marie, parce que
oui,
je vois que...
Alors oui, nous aurons l'annonce.
Les fenêtres s'ouvrent. On va vous mettre aussi, vous qui êtes derrière le poste, le son pour que vous puissiez entendre le cardinal protodiacre annoncer.
Le cardinal Mandert.
Il faut dire qu'il y a la foule hein, sur la place Saint-Pierre et que ce moment est très très attendu.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum. Ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Si j'ai bien saisi ce que l'on vient d'entendre, le pape va s'appeler Léon.
Alors on doit
Léon 24.
Être...
C'est possible.
Non, c'est pas 24.
Alors Léon, il me semble que c'est 13, le pape Léon. Alors Léon 14.
Léon 14, je pense.
C'est fort probable.
Léon 14.
Si j'ai bien compris ce qu'il vient d'être dit.
Le cardinal Prévost, c'est un cardinal, me semble-t-il, américain, non ?
Alors, on va essayer de chercher pour pouvoir vous donner le plus vite possible le nom de celui qui a été élu pape, qui a choisi a priori le nom de Léon. Pour,
c'est le cardinal Prévost qui est élu pape. Prévost, c'est impressionnant parce que c'était le préfet de la congrégation des évêques. Et il a choisi le nom de Léon XIV. Oui,
c'est un Américain qui vient de Chicago et qui est né en 1955. Vous entendez peut-être derrière nous les cloches de Saint-Marcel qui sonnent, et c'est pareil dans tout le Jura. En ce moment, les églises sonnent les cloches pendant une dizaine de minutes pour annoncer l'arrivée du pape Léon XIV, le Robert Francis Prévost, qui est né le 14 septembre 1955 à Chicago.
Il est plus jeune que nous.
Oui, vous êtes plus...
Non, pas, il n'y a pas, pas, un peu, pas de moi. Non, de moi. Je de suis moi, quand même un peu plus jeune. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que Léon XIII, c'était un pape social et qui avait fait, entre autres, une encyclique sociale, Rerum Novarum. Et c'est intéressant qu'il ait choisi ce patron.
Vous êtes une culture, un puissant fond, Jean-Marie Nussbaum. Il a 69 ans. On va peut-être commencer par là. Il est américain, il a 69 ans. Qu'est-ce que ça signifie ? Et alors que les cardinaux arrivent gentiment, eux, au balcon pour voir d'ici quelques minutes l'arrivée du nouveau pape. Donc, le pape Robert Francis Prévost, américain de Chicago. Il a 69 ans et il s'appellera Léon XIV.
C'est ce qu'on disait, c'est pas celui qu'on attendait.
Personne n'a sorti ce nom. Hein.
Personne n'a jamais parlé du cardinal Prévost. Et voilà. Donc, et en plus que ce soit allé si vite, je trouve que ça c'est très fort. Alors, dans ma foi, je dis l'Esprit Saint a vraiment fait un coup de maître.
Oui, alors je pense, oui. Oui.
Est-ce qu'il y a une question. Quand même, j'imagine que c'est très très rare. On a eu François qui était un pape d'Amérique latine. Maintenant, on a réellement un pape américain qui vient de Chicago. Est-ce que ça, c'est un bouleversement quand même ?
Bonne question à laquelle je ne sais pas s'il y a une réponse comme ça. Parce qu'évidemment, quand on pense en cardinal américain, et automatiquement dans la tête, on a le président américain, et que l'on se dit, voilà, comment ça se passe entre eux.
J'ai quand même une information que je viens de voir, là. Oui. J'ai l'impression qu'elle est vraie, elle est sur un site qui fait la biographie de Robert Francis Prévost. Il a été élevé au rang de cardinal le 6 février 2025. Ça veut dire quelques jours avant la mort du pape François, enfin quelques deux mois non, avant la mort.
Non, c'est pas, il y a pas eu
sûr.
Non, c'est pas, c'est pas. Non, ça c'est pas.
Mais c'est un jeune cardinal.
Il est dans la.
Là, oui, pense c'est qu'il... un jeune cardinal parce qu'il a, il a succédé à la congrégation des évêques au fameux cardinal canadien
Ouellet.
Il a pris cette congrégation en charge alors qu'il n'était pas encore cardinal. Il a été élu cardinal
en 23, il me semble, 23, la dernière.
Alors, il a été annoncé cardinal en juillet 23.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Mais il a été élevé au rang de cardinal-évêque le 6 février.
Ah, cardinal-évêque. Il y a trois ordres de cardinaux. Ouais, on est cardinal, soit cardinal-prêtre, soit cardinal-diacre ou cardinal-évêque. On est toujours cardinal, mais ça veut dire que le pape attribue soit des diocèses autour de Rome, c'est les cardinaux-évêques, soit des paroisses romaines, ce sont les cardinaux-prêtres, soit des diaconies, ce sont les cardinaux-diacres. Kurt Kohr, notre ancien évêque de Bâle, est par exemple cardinal-prêtre. Il est dans l'ordre des prêtres. Et Mgr Mamberti, qui vient de faire l'annonce, est le premier des cardinaux dans l'ordre des diacres.
D'où voilà. Le fait que c'est lui qui a fait cette annonce.
Voilà.
Et donc, mais ça reste quand même un jeune cardinal. Il a moins de deux ans de cardinal pour le nouveau pape, pape Léon XIV, américain, alors que sur la place Saint-Pierre, on voit les drapeaux américains, inévitablement, bien sûr, mais aussi les cardinaux qui sont maintenant aux différents balcons de la basilique Saint-Pierre. Et on voit aussi que sur la fameuse loggia où le pape Léon XIV va arriver d'ici quelques minutes maintenant, eh bien, le grand tapis a été déployé pour faire apparaître d'ici quelques minutes. On peut attendre encore combien de temps, à votre avis, Jean-Marie ? Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Parce qu'il est annoncé au monde.
Oui, et donc...
on l'a encore pas vu.
Les pronostics sont toujours un petit peu difficiles, mais dans la demi-heure qui suit l'annonce, le pape devrait apparaître.
Voilà, donc d'ici 8 heures moins le quart.
Voilà.
Robert Francis Prévost, élu pape sous le nom de Léon XIV. C'est un choix, là aussi, ça vous surprend ? Comment est-ce que vous analysez ce choix de Léon ?
Oui, c'est surprenant, mais je pense que dans la logique de son prédécesseur Léon XIII, qui était un pape qui a pris en charge un peu toutes les questions sociales, cette encyclique Rerum Novarum a marqué quand même toute la doctrine sociale de l'Église. Et je pense que c'est de très bon augure si ce nouveau pape s'inscrit dans cette logique de questions sociales. C'est un peu une mise en œuvre de l'héritage de François. François qui a mis le doigt sur les questions sociales de notre société, du monde. Et je pense que ce nouveau pape, qui était très proche du pape François, il le voyait toutes les semaines, puisque toutes les nominations d'évêques du monde passaient par ce cardinal, qui est notre nouveau pape. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup mieux placé que lui pour sentir l'évolution de l'Église dans le monde et prendre la température des différents continents. Et je pense que c'est un excellent choix, parce que si ce nouveau pape connaît bien les évêques, puisqu'il en a fait nommer de très nombreux, et que le choix des derniers évêques sont déjà orientés vers le social, beaucoup, eh bien, c'est de très bon augure pour assumer l'héritage de François.
Léon XIII, qui a été pape au XIXe siècle, et qui a été pape, manifestement, parmi l'un des plus longs de l'histoire.
Exactement, hein. Oui.
Et là, quand on a un pape qui arrive à 69 ans, on peut aussi imaginer, qu'on parle nécessairement le plus long, mais c'est aussi plus, entre guillemets, plus jeune que ce qu'on aurait pu attendre.
Mmh. Oui.
François, avec quasi 10 ans de plus.
Oui, il avait
77.
76.
Oui.
En tout cas, tout cas plus que 70 ans. Là, il a 69. Potentiellement, on peut avoir un pape qui peut tenir en tout cas 20 ans.
Potentiellement, oui, effectivement, tout à fait.
Est-ce que l'âge a été, à votre avis, quand même un peu, pas déterminant, mais pris en compte quand même d'avoir un pape qui peut tenir? On avait, je me souviens, parlé du pape François comme un pape de transition.
Mm-hmm. Oui.
Est-ce que là, ça veut dire qu'on a aussi voulu un pape qui peut durer plus longtemps?
Ça, c'est les cardinaux qui pourraient nous répondre à cette question. 69 ans, dans ce temps, c'est un pontificat qui va avoir une certaine durée, mais en même temps, pas une durée démesurée. Et peut-être c'est un peu ça l'idée aussi, de dire c'est bien qu'on ait quelqu'un qui, pendant une période, puisse donner le meilleur pour l'Église, au niveau de l'âge, de la santé. Et voilà, sans que ce soit comme le pontificat de Jean-Paul II, qui avait été jeune, hein, 59 ans, oui, quand il avait été élu, et qui a duré 27 ans. Et c'est vrai que sur la fin, c'était aussi un petit peu compliqué, le pontificat de Jean-Paul II. Donc, voilà, il y a peut-être ça.
Moi, j'avais une question que peut-être beaucoup de personnes se posent.
Voilà, je crois que le pape va apparaître.
Ah oui, alors, effectivement, voilà, bien joué, croix. Jean-Marie Nussbaum. Oui. On va aussi, pour vous qui êtes derrière le poste et qui nous suivez, peut-être en voiture ou ailleurs, le pape Léon XIV, américain, est en train d'apparaître au balcon de la basilique.
Souriant.
Souriant.
Évidemment, vous me direz, mais quand même, ce sourire est quand même important.
On remarque aussi que contrairement au pape François, il a choisi de se vêtir de rouge également.
Il a revêtu le camail rouge et puis l'étole des papes surplis. Donc voilà, la tenue traditionnelle.
Alors, il n'a encore pas pris la parole, il salue la foule pour l'instant.
Il y a les hymnes qui sont là.
Un visage relativement serein, me semble-t-il, qu'il dégage pour l'instant. Et on attend que l'on lui mette le micro sous la bouche. Papa Léonet, j'entends, me semble-t-il, sentir de la foule de la place Saint-Pierre. La trompette, évidemment, aussi les fanfares qui jouent les hymnes. Le pape Léon XIV est au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il regarde cette foule immense. Qu'est-ce qu'il doit penser dans sa tête à ce moment-là, Jean-Marie Nussbaum?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vertigineux. J'ai eu l'occasion une fois d'être sur cette loggia et rien que de voir la place Saint-Pierre vide, c'était vertigineux. Alors j'imagine, avec cette foule qui est immense...
Une foule qui attendait ce nouveau pape, on se rend compte que dans la situation générale actuelle, ce pape est particulièrement attendu, Jean-Marie Nussbaum.
Oui, je pense, puisque la situation mondiale est quand même un petit peu compliquée. La situation de l'Église est aussi un petit peu compliquée. Donc un pape, le cardinal Rey avait dit dans son homélie hier, qu'il faut un pape qui soit au service de l'unité de l'Église et aussi pour l'humanité. Et sans doute que les cardinaux ont estimé que Léon XIV était celui que le Seigneur a appelé à cette mission.
Viva papa, je crois que la foule scande. Il a le sourire, hein, pour l'instant. Il remercie la foule de le saluer avec beaucoup de joie. Mais il ne prend pas encore la parole pour l'instant. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'il me semble que François avait pris la parole avec son fameux Buenasera très rapidement. Là, pour l'instant, le pape Léon XIV... Alors voilà, le micro s'approche de sa bouche, il va s'exprimer. On va écouter le pape.
La pace sia con tutti voi.
La paix soit avec vous tous.
Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous.
Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile.
Telle est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma.
Nous avons encore dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du Pape François.
Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua.
Le pape François qui bénissait Rome,
di dar seguito
qui donnait
a
la paix
stessa
à Rome
benedizione.
Et au monde entier
Dio
en ce
vuole
matin
bene.
De Pâques,
Dio vi ama
nous rappelant,
tutti.
Nous disant que Dieu
et
nous aime, Dieu nous
prévarà.
Aime tous, et que
Siamo
le mal ne prévaudra, ne prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu.
Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi,
aussi, sans peur, unis, la main dans la main avec Dieu et les uns et les autres, allons de l'avant avec le Christ qui nous précède. Le monde a besoin de sa lumière, l'humanité a besoin de lui comme d'un pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour.
Poi gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo,
aidez-vous
con l'incontro,
les uns les autres à construire des ponts par le dialogue,
popolo,
par des rencontres, pour être un peuple
Grazie
toujours en
Francesco.
Paix. Merci au pape François.
Le discours n'est pas encore terminé, mais déjà plusieurs allusions au pape François dans les mots de Léon XIV.
Absolument.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro.
Je souhaite aussi remercier tous mes confrères cardinaux qui ont voulu me choisir comme successeur de Pierre. Les cardinaux, ensemble avec vous, cherchant toujours la paix, la justice, cherchant toujours à œuvrer en hommes et en femmes fidèles à Jésus-Christ, sans peur, pour proclamer l'Évangile, pour être missionnaire.
Un figlio di Sant'Agostino.
Je suis un fils de Saint Augustin, un Augustinien.
Che ha detto con voi sono cristiano e per voi vescovo.
Qui a dit avec vous je suis chrétien et avec vous je suis évêque. Nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie
la quale Dio ci ha preparato.
A préparé pour nous.
À la Chiesa di Roma, un saluto speciale.
J'adresse mes salutations particulièrement à l'église de Rome.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria Una chiesa che costruisce I ponti, il
Nous
dialogo,
devons chercher ensemble comment être une église missionnaire,
une église
qui baptise des ponts, une église prête à recevoir, comme sur cette place où nous sommes si nombreux, les si nombreuses personnes qui ont besoin de notre charité, de notre présence et de notre engagement. Et je me permets de vous adresser un mot, une salutation. Le pape Léon a commencé à parler en espagnol.
En modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Particulière, je souhaite adresser des salutations à mon diocèse de Chiclayo au Pérou.
Donde un pueblo fiel
Un peuple fidèle a accompagné son évêque, a partagé sa foi et a donné tant et tant en suivant, en étant une église fidèle au Christ.
À
vous tous, frères et sœurs de Rome, d'Italie, du monde entier, nous voulons être une église synodale, une église en marche, une église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité, qui recherche toujours à être proche, particulièrement aux personnes qui sont dans la souffrance.
Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Aujourd'hui, c'est la journée de la supplique à Notre-Dame de Pompéi. Notre mère, Marie, veut toujours marcher avec nous, être proche de nous, nous soutenir par son intercession et par son amour. Alors, je souhaiterais prier avec vous. Prions ensemble pour cette nouvelle mission. Une nouvelle mission pour toute l'Église, pour la paix dans le monde. Et demandons cette grâce particulière de Marie, notre mère.
Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Le pape Léon XIV qui adresse sa première prière à la Vierge Marie, qui a désormais, semble-t-il, terminé son discours. On verra si la foule lui demande encore quelque chose ou si lui va encore lui adresser quelque chose avant de repartir. Probablement qu'il va profiter un peu de ces moments absolument uniques de se retrouver là en tant que pape pour la première fois.
Il y aura la bénédiction, la première bénédiction Urbi et Orbi qui va être donnée.
A tutti i fedeli presenti
le Saint-Père Léon,
à tous les fidèles présents
et à tous ceux recevant sa bénédiction par les moyens de radio, de télévision et d'autres technologies de communication, accorde l'indulgence plénière dans la forme établie par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde au Pape d'être longtemps à la tête de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier.
Et voici la première prière Urbi et Orbi du Pape Léon.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
La foule sur la place Saint-Pierre qui acclame le pape Léon XIV au terme de sa première bénédiction Urbi et Orbi. Il va encore probablement saluer durant quelques secondes ou minutes cette foule sur une place Saint-Pierre archi-comble. Hein. Je crois qu'on le voit, les images sont assez claires. La place a été remplie très rapidement après cette annonce de 18h08 au moment de la fumée blanche. 18h13, l'Abemus Papam et 18h23, l'arrivée du pape Léon XIV. 19h23. L'arrivée, il y a donc pile un quart d'heure, de Léon XIV, un cardinal américain, Robert Francis Prévost, c'est son nom. Il l'a dit, au Pérou, hein, il a parlé quelques mots en espagnol pour son diocèse, alors que la fanfare du Vatican a pris le relais en musique. Je pense qu'il n'y aura plus d'intervention papale puisque la prière Urbi et Orbi a eu lieu, mais il reste pour l'instant au sommet de cette loggia, le pape Léon. On va peut-être commencer l'analyse un peu de ce... Alors que l'hymne italien retentit évidemment sur la place Saint-Pierre. On va pouvoir gentiment commencer d'analyser un petit peu tout ça et on vous relayera, à vous qui nous écoutez et nous suivez, s'il y a des images marquantes encore, des signes de la part de Léon XIV, qui est toujours au sommet de cette basilique. On va peut-être commencer avec vous, Bernard Miseré, parce que les premiers mots du ont été non pas Buenasera comme le pape François, mais ont été la paix soit avec vous. Comment vous analysez cette entrée du pape Léon XIV ?
Eh bien, très vite, on sent que ce nouveau pape va mettre sa personnalité, son empreinte sur ce pontificat qui commence. Il n'a pas à refaire ce que faisait François. Il a lui-même à nous donner ce qu'il porte en lui pour vivre sa mission. Et on a senti dans tout ce message combien la paix, l'amour, il nous l'a dit, combien l'amour de Dieu touche chacune, chacun d'une manière inconditionnelle. J'ai aimé beaucoup cette parole de ce père à l'humanité entière.
Et qu'il vient de repartir de la loggia, comme ça, vous qui nous suivez, vous le savez, le pape a terminé son épisode au balcon. Maintenant, la foule reste sur la place Saint-Pierre. On ne devrait plus revoir ce soir le pape Léon XIV, mais voilà, on peut se laisser surprendre pour peut-être une apparition sur la place Saint-Pierre. Il ne fait pas encore nuit. C'était le cas quand...
un petit tour en papa mobile, tout à fait.
Ça vous plairait, ça, vous, Jean-Marie?
Ah, hein, moi, je trouve que ce serait intéressant, oui.
Alors, je vous laisse aussi enchaîner à la réaction à celle que Bernard Miseré a faite sur ce discours inaugural. La paix soit avec vous ont été et resteront, comme toujours, les premiers mots du pape Léon XIV.
Qui sont les premiers mots que Jésus adresse à ses apôtres le soir de Pâques, Jésus ressuscité? La paix soit avec vous. Et dans le fond, ce souhait correspond sans doute à ce dont notre monde a le plus besoin, la paix. Il suffit de voir la carte géopolitique et tous les conflits multiples qu'il y a. Nous avons besoin de la paix. Et peut-être que cette paix, quand il dit la paix du Christ, ça veut bien dire qu'elle n'est pas qu'une construction humaine, mais que nous avons besoin que la paix du Christ vienne viennent nous toucher pour nous aider à bâtir effectivement des relations pacifiées, pacifiques, construire des ponts. Hein. Il a cité ça plusieurs fois, et évoqué aussi le pape François, donc s'inscrivant dans la ligne du pontificat précédent, avec aussi cette attention aux pauvres et puis aux petits. Là, c'est aussi, je pense, le fait qu'il ait choisi Léon en fonction de Léon XIII, avec cette fameuse encyclique sociale, Léon XIII, qui était quand même très préoccupé aussi de ce qui était à ce moment-là la condition ouvrière. Et on peut imaginer que voilà, le pape Léon XIV veut s'inscrire aussi dans cela. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière, j'allais dire presque un peu décontractée, de saluer. Il donne l'impression d'être heureux. Et alors, mesurant sans doute toute le poids de la charge, mais voilà, d'avoir dans les gestes, dans les saluts, je trouvais ça très, très, très beau, quelque part.
On a évoqué tout à l'heure le fait que le pape est aussi un chef d'État. Et on sent que l'élection d'un pape n'est pas du tout la même que l'élection d'un chef d'État. Vous disiez, il est heureux, mais il affichait tout simplement un sourire. Il n'a pas gagné, il est heureux. Oui. C'est peut-être ça la différence.
Oui, surtout que dans les élections habituelles politiques, il y a des candidats. Et puis on se bat pour être élu.
Est-ce qu'ils sont candidats, les
papes ? Il n'y a pas de candidats.
Il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de dossier de candidature.
Il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de campagne électorale. Il y a, voilà, donc 133, il y a 133 candidats potentiels, hein, en l'occurrence, quand est organisé
et même plus,
le conflit.
Et
alors on pourrait, bien
sûr. Vous auriez pu l'être, Jean-Marie.
Bien sûr, Bernard aussi, d'ailleurs, Cyprien, puisqu'il suffit d'être catholique pour être élu pape, mais voilà, et c'est aussi, ça donne une grande liberté dans le fond. J'ai pas fait campagne, j'ai pas, je reçois cela comme un appel de Dieu et du Christ, et puis avec ce que je suis, j'y réponds.
Est-ce que c'est une vocation, être pape?
Non, la vocation, c'est d'être baptisé, surtout. Et puis de suivre le Christ, après, selon les appels que l'on entend. Et puis après, bon, voilà, il y a un appel qui est fait, là, en l'occurrence, pour qu'il devienne évêque de Rome. Ça aussi, c'est important, parce qu'il a souligné, le pape est d'abord évêque de Rome. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est le pape. Donc, il y a une réponse à un appel en comptant sur la force de Dieu. Hein. Si on regarde, il est le successeur de Pierre. Ben Pierre, il a quand même fait l'expérience de la fragilité et il a eu besoin quand même que le Seigneur le repêche plusieurs fois pour en faire un pêcheur d'hommes.
Alors, les cloches sonnent à tout rompre désormais sur la basilique Saint-Pierre. Il y a une question qui me brûle les lèvres quand même maintenant, Bernard Miseré. On a un pape américain qui arrive en disant « La paix soit avec vous », en appelant à bâtir des ponts dans son discours inaugural. On ne peut pas s'empêcher de voir un contrepoids à Donald Trump. Est-ce que les cardinaux ont aussi pensé à ça? C'est un pape américain qui va faire face à un président qui est omniprésent sur la planète et qui est donc de la même nationalité. Est-ce qu'on a, géopolitiquement parlant, pensé quand même à ça un peu dans cette élection? Parce que indirectement, dans son discours, moi j'entends aussi un peu des attaques directes contre la politique de Donald Trump, comme l'a eu fait jusqu'à son dernier souffle le pape François. La paix soit avec vous, bâtir, construire des ponts, c'est l'inverse un peu. D'ailleurs, il a parlé de une paix désarmée et désarmante, hein, a-t-il dit tout de suite, Bernard Miseré.
Oui, donc j'imagine que pendant les congrégations qui ont eu lieu avant le conclave, le sujet premier qui a dû être celui de leur rencontre, discussion, c'est la situation du monde, préoccupante. L'attention, on est quand même dans une menace de guerre qui peut surgir à tout moment. Et je pense que le souci des cardinaux, ça a été de contrebalancer cette menace et de le faire avec l'humilité de l'homme qui nous est donné par Dieu ce soir, comme signe d'espérance. Non, la paix aura le dernier mot. Et j'imagine bien que si le pape François a osé s'élever contre la politique de Donald Trump, en plaçant entre autres un cardinal anti-Trump à Washington, c'est parce que l'Église ne veut pas entrer dans cette politique qui est celle que nous donnent à voir aujourd'hui les grands de ce monde. Et j'aime beaucoup ce soir, je dis presque l'humilité, il faut être humble, je pense, pour être pape. Il faut être très humble, il faut peut-être déjà plus ne s'appartenir pour pouvoir laisser transparaître cette parole qui vient du Christ et qui dit non, paix au monde. C'est une confiance incroyable qui nous est donnée ce soir.
Jean-Marie Nussbaum, sur cette même question, avant d'entendre d'ici quelques secondes maintenant le délégué épiscopal Didier Béret, qui arrive gentiment dans nos oreilles également. Mais Jean-Marie Nussbaum, peut-être sur...
J'ajouterais aussi ce qui donne un sentiment, alors, pas seulement l'humilité, mais une liberté intérieure, pour oser dire des choses. Et ben voilà, c'est la paix désarmante, désarmée, c'est construire des ponts, c'est ça. Alors, c'est pas dans ce que le langage politique, c'est pas ce que l'on entend là, c'est parce que certains veulent, et cependant, c'est ça la voie. Donc, il faut, je pense, vraiment cette liberté intérieure de pouvoir dire ça. Et puis, cette parole, elle rejoint, et puis elle heurte sans doute des personnes, mais c'est pas grave. Elle touche d'autres, elle en réjouit encore d'autres. Et dans le fond, c'est le message du Christ. La paix soit avec vous.
Il est 19h48, désormais on va accueillir un nouvel invité dans cette émission spéciale et on va peut-être saluer aussi le départ de Bernard Misery. Merci beaucoup Bernard Misery d'avoir été avec nous, vous avez d'autres obligations.
Réjouissons-nous en tout cas.
On va se quitter sur ces mots. Merci Bernard Misery d'avoir été avec nous, belle suite de soirée à vous et bonsoir Didier Béret.
Bonsoir.
Bienvenue également dans cette émission spéciale. Vous êtes délégué épiscopal du Jura pastoral et vous nous rejoignez pour un petit peu aussi nous livrer votre avis, votre analyse sur ce que vous venez de voir. Vous êtes à Seignelégier en ce moment et vous avez aussi, comme tout le monde, mis la télévision pour assister à cette apparition du pape Léon XIV. Peut-être la première question assez large, mais qu'avez-vous pensé de cette apparition du pape au balcon ?
Alors, plutôt qu'un avis, c'est des impressions à cette heure. Mon premier sentiment, ça a été de prier pour lui, parce qu'il joue un rôle fondamental. Il a une position qui est difficile, qui est d'ordre mondial. Il est conscient, je pense, que chacun de ses mots va être pesé, analysé, sous-pesé, que chacune de ses paroles est scrutée et analysée. Et puis je trouve que les premières paroles qu'il a dites, elles doivent rejoindre tout le monde, puisque c'est un appel à la paix et qu'il a voulu se faire porteur de la paix de la résurrection. Il a annoncé qu'il allait créer des ponts et puis j'espère qu'il sera soutenu dans ces élans-là, vraiment, par le Collège des cardinaux, par nous aussi, membres de l'Église, pour que chacun de nous puisse travailler pour l'avenir d'un monde plus juste et plus paisible.
C'est un pape américain, un nom que peu de monde, voire à peu près personne, n'avait sorti et qui, au final, sort au quatrième tour de l'élection. Quelle analyse vous en faites, vous, de cette situation-là ?
Là aussi, je ne suis pas un grand spécialiste des affaires du Vatican. J'avais vu cette liste des cardinaux, j'ai vu aussi sur les journaux ce qui était Papa Billet. Il ne faisait pas partie de ceux qui ont été cités, donc je n'avais pas scruté son nom avant, je ne le connais pas. J'ai jeté un coup d'œil maintenant sur Internet pour voir un peu son histoire, d'où il vient. J'aime qu'il ait été en mission au Pérou, qu'il ait connu un peu ce monde de l'Amérique latine. Et puis après, je reste en attente pour, prêt à découvrir et à accueillir ce qui nous sera donné par lui et puis ce qui nous sera donné de vivre sous son pontificat.
Le pape qui a choisi le nom de Léon XIV, on a parlé tout à l'heure avec Jean-Marie Nussbaum de cette référence à l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, donc de la doctrine sociale finalement de l'Église. Ça, c'est aussi déjà dans ce choix du nom quelque chose que vous percevez sur le côté très social, le rôle très social de l'Église ?
Oui, bien sûr. Les noms des papes ne sont jamais choisis par hasard. J'imaginais mal un François II même que Beaucoup de cardinaux se disent dans la ligne de François. Je ne sais pas pourquoi. Je ne m'attendais pas non plus à un Léon XIV, mais en référence à Rerum Novarum, s'il peut prolonger la doctrine sociale de l'Église, avoir une attention particulière aux travailleurs, aux pauvres, aux migrants, à ceux qui sont défavorisés. Je pense que c'est vraiment le rôle de l'Église de rejoindre les tout-petits qui sont dans la Bible considérés comme les privilégiés et les favoris de Dieu.
Il a cité à plusieurs reprises dans son discours le pape François. On s'attend, ou sur ce qu'il a dit là, vous vous attendez à ce qu'il soit quand même vraiment dans la ligne, que les cardinaux ont choisi un pape dans la continuité de l'ouverture apportée par le pape François sur son pontificat?
Oui, il semble qu'on va dans cette ligne-là. J'ai apprécié les mentions aussi de marcher avec, devenir une église missionnaire. Il a parlé d'église synodale, donc je crois qu'il y a vraiment l'idée de pas régenter ou diriger une église tout seul du haut d'un pontificat, mais d'entrer dans une église, de poursuivre l'église de dialogue que veut François, où des chrétiens et des chrétiennes réfléchissent ensemble pour trouver les voies d'évangélisation de notre monde moderne. Peut-être et ça me réjouit beaucoup.
Peut-être encore une dernière question, Didier Béret, vous revenez d'un séjour dans le Sinaï il y a quelque temps. Le pape Léon va devoir à un moment donné choisir son premier voyage. On se souvient que celui du pape François, c'était Lampedusa. Vous imaginez un pape Léon arriver dans une des régions en conflit du monde pour son premier séjour?
Alors là aussi, il faut mesurer des enjeux beaucoup plus globaux que je ne maîtrise pas. C'est vrai que si Léon XIV décidait d'aller en premier voyage à Gaza, rejoindre les chrétiens qui sont là, vous savez que le pape François téléphonait toutes les semaines aux prêtres de Gaza, ça serait quelque chose, ce serait un signe extrêmement fort. Maintenant, est-ce que les conditions sont là pour qu'il le fasse? Est-ce que les rouages de ces questions diplomatiques doivent être pesés et mesurés de façon plus large que le simple avis que je peux vous donner. Mais je pense que le pape a un mot à dire dans ces situations politiques compliquées et tragiques. Et s'il peut le faire et le faire de manière à permettre la paix de progresser, ce serait magnifique. Ouais.
Didier Béret, merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission spéciale sur RFJ ce soir. Vous êtes délégué épiscopal du Jura pastoral en direct de Saigne-Légier. Belle suite de soirée à vous et puis bon pontificat du pape Léon.
Oui, bon pontificat du pape Léon. Merci à tous, belle soirée. Merci.
Merci. J'aimerais quand même juste souligner la source. Tout à l'heure, vous avez entendu l'arrivée et la première, je dirais presque la première homélie du pape Léon XIV. La source était KTO en direct sur Internet. Il fallait le souligner au passage, ce qui nous a permis non seulement d'entendre le nouveau pape, mais la traduction en français. On se retrouve dans quelques minutes.
Votre carte Sésame RFJ en poche, c'est des avantages toute l'année, à l'antenne et chez nos partenaires. Présentez votre carte Sésame et profitez des privilèges suivants.
Party Time à Courant de l'Ain et sur partytime-shop.ch, tout pour vos décos mariage, anniversaire, fêtes et manifestations. 10% de rabais sur tout l'assortiment.
La boutique Sunset en vieille ville de Delémont, mode féminine et masculine. 25% de rabais sur vos achats.
Ossola, petits et grands électroménagers, partenaire Electrolux à Courtaitel. À l'achat d'un grill à gaz Weber, un set d'ustensiles offerts.
Retrouvez tous les privilèges que votre carte Sésame vous offre sur rfj.ch.
19h55, vous le savez maintenant, un nouveau pape a été élu. On a vu la fumée blanche à 18h08. Ce nouveau pape, c'est Léon XIV. Un peu plus de 24 heures, j'étais proche de la gare de Lémois avec un micro, histoire d'aller vous poser la question. Qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau pape?
La fumée blanche qui va sortir. Hein.
Oui.
Mais je ne sais pas qui c'est qui va nous élire.
Mais qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau pape?
Comme le pape François, il était ouvert, je trouve. Ouais.
Une certaine continuité peut-être avec son prédécesseur.
On verra bien ce que ça donne.
Vous attendez quelque chose de précis d'un nouveau pape?
Non, qu'il fasse les choses correctement. qu'il soit honnête avec tout le monde et puis qu'il fasse comme l'autre. L'autre, il était très bien. Il a fait des super bons trucs. Et puis j'espère que le prochain soit aussi comme ça.
Mais il était assez ouvert, quoi. Il était âgé, mais quand même, il était pour beaucoup de choses.
Est-ce que vous êtes intéressé par l'élection du nouveau pape?
Pas plus que ça, je
pas plus
dire.
Que ça.
Non, j'écoute de temps en temps la radio voir ce qui se passe, mais autrement, non, pas plus que ça.
Le
pape... J'espère qu'il soit un peu plus jeune que les autres.
Ah, ben voilà.
Voilà.
Est-ce que j'ose vous demander si vous êtes intéressé par l'élection du nouveau pape?
Non, pas du tout. Un petit peu, oui.
Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intrigue?
Ça fait partie du monde. L'avenir aussi, ouais. Beaucoup.
À quel point? Pourquoi c'est important cette élection du nouveau pape?
Si ça pouvait créer un peu de paix, de rassurer le monde quand même.
Vous avez l'impression que le pape peut avoir un poids sur l'avenir aujourd'hui?
Un poids, non, un regard, donner l'envie aux gens, leur montrer comment faire. On a quand même une situation un peu difficile, pas forcément en Suisse, mais dans le monde.
Mmh.
Pour les adultes, c'est vrai qu'on se pose des questions.
Il semble qu'il ait quand même une petite influence par rapport à des fois aux situations de guerre, mais est-ce que vraiment?
Vous êtes jeune, je vous demande si vous êtes intéressé par l'élection du nouveau pape.
Non, pas non. C'est ça.
Est-ce que vous, en tant que jeune, vous attendez quelque chose de la part d'un pape ou pas du tout?
Pas du tout.
Je vous dérange deux secondes pour vous demander si vous êtes intéressé par l'élection du nouveau pape.
Un peu, oui, bien ouais. Sûr.
Pourquoi?
Ben, parce que je suis catholique et donc oui. Ça me touche aussi.
Vous pensez que le nouveau pape pourra apporter quelque chose d'important?
Ben, on espère, parce que oui, l'Église a toujours du mal un peu à se réveiller. Il faut que ce soit plus vivant et puis que ce soit un peu plus moderne. Nos amis, nos collègues et puis nos amis protestants, les pasteurs peuvent se marier, les pasteurs peuvent être des femmes comme des hommes. Eh ben, c'est ça que j'espère avec ce nouveau pape qui est plus
c'est ce que vous attendez, voilà. Cette ouverture-là.
C'est juste.
Et voilà. Vous, madame?
Moi, j'attends un grand message de paix qui soit entendu.
Vous pensez que c'est le pape qui peut apporter un message de paix et un petit peu faire changer le monde?
Il peut. Oui, je pense que oui.
Quand même un message d'espoir qui est attendu, la paix qui serait amenée par le pape. Qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous entendez ces derniers mots, Jean-Marie Nussbaum?
Alors, c'était le premier mot, hein, la paix, mais la paix du Christ, hein, la paix soit avec vous. Donc, ça ne se décrète pas, la paix. C'est pas une baguette magique, mais c'est bien qu'il y ait, entre autres, dans le ministère du pape, cet appel sans cesse à la paix, à la communion, à l'unité. Et après, quand on entend ces appels, c'est qu'est-ce que nous en faisons, nous? Parce que le pape ne peut pas faire changer les choses de par lui-même. Donc, c'est aussi ça. Quand on dit qu'est-ce que vous attendez du pape, on peut aussi demander, dans le fond, le pape attend quoi de nous? C'est aussi ça. C'est ce qui se passe dans nos communautés, dans l'Église. Donc, c'est nous d'abord l'Église. Le pape peut impulser des choses, dire des choses, mais si nous écoutons, ah oui, c'est bien, il a bien parlé, etc., et puis que ça entre dans une oreille et puis que ça sort de l'autre, ça va, on ne va pas aller très loin. Hein.
On sent bien que ce que le pape François a apporté à l'Église, et parfois il y a peut-être eu quelques petits bouleversements, on sent bien à quel point ça a pu être important, oui. Et c'est resté gravé dans la mémoire des gens. C'est donc là aussi qu'il y a quelque chose d'important qui est attendu pour la suite. Est-ce que le pape François a quand même posé quelques bases sur lesquelles l'Église va continuer d'évoluer?
Oui, parce que le pape nous a rappelé par les périphéries que l'Église est faite pour les pauvres, que l'Église, c'est le peuple de Dieu qui est en marche, c'est toute la démarche de la synodalité, c'est l'attention à ceux pour qui on ne prête pas l'attention, et puis c'est surtout cette paix qui est à vivre et à bâtir, et en bâtissant des ponts. Et là, Léon XIV est tout à fait dans la même ligne, et je trouve que c'est... Mais il faut dire aussi que les autres papes étaient aussi... C'est... qui touche ou touche moins. La personnalité du pape François était très très proche, très directe, très voilà. Semble-t-il que Léon XIV aussi a cette capacité de rejoindre les gens dans sa manière, dans l'attitude. Je trouve que c'est bien.
Il est 20h passées de 1 minute. On va tantôt rendre l'antenne, mais juste avant, peut-être encore réexpliquer, alors que ça fait à peu près 2 heures maintenant que la fumée blanche est sortie du Vatican, entre l'habemus papam, qui est donc l'annonce officielle au monde qu'il y a un pape élu, et cette arrivée où un discours finalement est déjà prêt, déjà écrit. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Marie Nussbaum, pour que le pape Léon ait finalement le temps de faire tout ça?
Alors, ce qui s'est passé, c'est d'abord qu'il y a eu une élection, donc aux 2/3 des voix au moins. Donc, ça veut dire que le cardinal Prévost a eu au moins 80 voix. Il a... son élection. Et à partir du moment où le cardinal accepte l'élection, il devient pape. C'est ça qui fait qu'on devient pape. Ce n'est pas seulement l'élection, mais c'est l'acceptation. Ensuite, il lui a demandé quel nom et il souhaitait porter. Et il a répondu Léon. Après cela, le nouveau pape Léon est allé dans une petite pièce qui se trouve à gauche de la chapelle Sixtine, du cœur de la chapelle Sixtine, qu'on appelle la chambre des pleurs, où là, il a revêtu la soutane blanche, et puis le surplis, le camail rouge et l'étole. Ensuite, il est revenu devant l'autel, où on aura installé le siège du pape. Et là, on a proclamé l'évangile de Matthieu 16, où Jésus demande pour pape, c'est-à-dire en quelque sorte lui prêter serment de fidélité, on va dire ça comme cela, et on a rendu grâce par ce qu'on appelle le chant du Te Deum, c'est le grand chant dans l'Église par lequel on rend grâce. Et après cela, il y a eu l'annonce par le cardinal Mamberti, qui était le cardinal protodiacre de l'élection de
Habemus Papam.
Et puis, il y a eu un moment quand même où semble-t-il, Léon XIV a pu rédiger ce qu'il a dit.
Hein, c'est assez long.
Mais justement, moi, c'est la question que je me posais.
Donc, il y a eu un moment où il a accepté d'être le pape et où il est apparu, et après avoir reçu l'obédience des cardinaux, c'est cette liturgie. Qu'il voulait dire, puisqu'apparemment il le lisait, on va dire ça comme ça.
Mais il l'avait déjà en tête, ça veut dire que chaque cardinal avait quand même déjà, parce que ce pape-là ne dit pas la même chose que si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été élu. Les grandes lignes étaient déjà dans son esprit et dans sa tête.
Alors je pense qu'il y avait... Après, comment l'élection s'est passée, on ne sait pas. Donc est-ce que déjà ce matin... il y avait un nombre de voix qui supposaient que, et qu'à un moment donné, voilà.
Senti pendant la journée que ça allait être lui. Peut-être.
Voilà, peut-être. Mais il y a eu quand même un moment entre on a eu quand même une heure vingt, et je pense que il a dû dire. Mais je pense qu'il n'était pas tout seul. Il y avait sûrement un secrétaire qui il a dit j'aimerais dire ça. Puis on a. Mais ça, je spécule.
C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un laps de temps très court et qui, au final, aboutissent à des mots qui sont maintenant analysés partout à travers le monde par des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes sur les radios et les télévisions depuis l'annonce de ce discours du pape Léon XIV, cardinal américain qui est donc désormais élu pape pour les prochaines années, probablement. Il a 69 ans, donc potentiellement, il peut avoir un long pontificat. Tout cela, eh bien, on verra, Jean-Michel, si on aura droit à une troisième émission un jour ensemble avec Jean-Marc Inusco, puisqu'on était déjà un peu les trois mêmes il y a 12 ans.
C'est vrai, exactement.
Merci aussi on va rappeler la présence de
Bernard Mizré, oui.
Là, le recteur du Fourbourg.
Et de Didier Béret.
Didier Béret, le délégué épiscopal. Il est 20h06. L'émission a démarré il y a pile une heure à peu près maintenant. On espère qu'elle vous a permis de vivre avec une touche jurassienne cet événement mondial qu'est l'élection d'un pape. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive même très rarement. Dans l'histoire d'une vie, on en connaît 5, 6, 7, peut-être même qu'un parfois. Donc ce sont toujours des événements très rares. On espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. On vous remercie sincèrement, Jean-Marie Nussbaum, d'être
venu. Mais merci venu, aussi à vous.
D'être toujours fidèle à ce micro.
Voilà, depuis un certain nombre d'années.
On espère que vous serez là pour le prochain.
Oui, nous en reparlerons.
Merci, excellente soirée.